Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, mesdames, messieurs, Kinshasa et Dodoma passent à la vitesse supérieure dans leur coopération. Les deux pays renforcent leurs relations dans divers domaines, dont l'économie et la santé. La rentrée scolaire 2026-2027 en RDC, le gouvernement annonce un programme spécial pour protéger les élèves contre la maladie à virus Ebola dans 18 zones à risque. Le jeune photographe congolais seront mis à l'honneur cette semaine à Kinshasa. C'est à travers le festival Congo Photo International que leur talent sera célébré. En invité, Jackson Tshisekedi, organisateur, nous présentera ses projets ambitieux. Comme annoncé, la RDC convient de renforcer sa coopération avec la Tanzanie. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue tanzanienne Samia Suluhu Hassan l'ont annoncé lors d'un entretien en tête-à-tête à la State House de Kizimkazi. C'était au terme de la visite officielle de Félix Tshisekedi en Tanzanie, indique une dépêche de la présidence. Sur le plan économique, les deux dirigeants ont décidé de redynamiser la commission permanente mixte et de mettre en place un nouveau partenariat. Blaise Ndongala nous dit plus sur ce partenariat.
Samia Suluhu Hassan et Félix Tshisekedi ont convenu d'un cadre de coopération technique portant sur la gestion des minéraux critiques, le partage des données géologiques stratégiques et l'évaluation des opportunités de coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel. Les discussions ont également porté sur la modernisation des infrastructures de transport le long du corridor central afin de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Cette coopération prévoit notamment la réhabilitation des infrastructures portuaires de Dar es Salaam, Kigoma et Kalemie, les renforcements du transport lacustre et l'interconnexion progressive des réseaux ferroviaires. Les deux pays envisagent le déploiement d'une dorsale transfrontalière en fibre optique pour renforcer leur connectivité numérique. Sur le plan sécuritaire, la Tanzanie a réaffirmé son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC dans le contexte des violences dans l'est du pays. Les deux chefs d'État ont appelé par ailleurs au retrait des forces étrangères et à la cessation des hostilités. Ils ont par ailleurs réitéré leur soutien au processus de paix de Washington et de Doha.
Ici, dans la capitale, le trafic du train urbain a repris ce mercredi. Ce matin, des passagers de la commune de Massina se sont rendus à la gare centrale, quand je parle de la gare centrale, c'est-à-dire au centre-ville, à bord du train. Cette relance par l'ONATRA intervient après plusieurs années d'interruption. Mais comment les habitants accueillent-ils les retours de ces trains disparus de leur quotidien depuis près de 15 ans? Notre reporter Askan Zigbiatayoro a pris place à bord de ces trains. Il nous décrit l'ambiance.
Ce matin, dès les premières lueurs du jour, les agents de l'ONATRA étaient à pied d'œuvre au point de départ du train urbain. À 8h05 précise, le coup de sifflet a retenti pour le premier départ depuis la commune de Massina à l'arrêt Tchenke. À bord, la foule n'était toutefois pas au rendez-vous. Le convoi a desservi près de 10 arrêts avant d'atteindre la gare centrale à 9h23. Soit un trajet d'environ 1h20 pour relier Tchangou au cœur de la capitale. Un temps de parcours pour la majorité des passagers interrogés offre une alternative crédible aux embouteillages chroniques qui étouffent Kinshasa. Selon eux, cette mégapole ne saurait fonctionner durablement sans un système de train urbain efficace. Il convient de souligner que la rame a roulé à une vitesse moyenne comprise entre 20 et 25 km par heure. Pour cette journée de reprise, une seule rotation est prévue. Le train effectuera son retour vers Tchangou à 16h30. Côté capacité, l'ONATRA a mis en circulation 10 voitures réparties en plusieurs classes avec des tarifs allant de 2000 à 5000 francs congolais pour une place assise.
Ici à Kinshasa, on fait la fête du côté des Luozi, c'est les grincements des dents. Au Congo central, les activités socio-économiques sont fortement impactées dans la région de Luozi. Les BAC assurant la traversée entre les dérives du fleuve Congo est en panne depuis près d'une semaine. Conséquence, les transports de personnes et des marchandises vers les grands centres de consommation deviennent de plus en plus difficiles. Face à cette situation, la société civile appelle les autorités à agir en urgence. Reportage de Élise Kavira.
À Luozi, le fleuve Congo ne relie plus, il sépare. Plusieurs structures de la société civile locale affirment avoir à maintes reprises alerté les autorités sur l'état des dégradations avancées de cette infrastructure, mais sans succès. Face à cette situation, Dieu le veut, dit Labandila, coordonnateur territorial du mouvement citoyen du 24 mars, le sang de Kasavubu, tire la sonnette d'alarme.
Chaque année, nous lançons des alertes. Les bacs de Luozi est dans un état de dégradation très avancé. Les seuls petits bacs encore opérationnels continuent d'assurer la traversée des véhicules malgré tous les risques. Nous ne comprenons pas l'inaction des autorités.
Cette situation affecte particulièrement les agriculteurs et les petits commerçants dont les produits risquent de se détériorer avant même d'atteindre les marchés.
Nous avons beaucoup de produits à écouler sur le marché. Les cossettes de manioc, des oranges, des oignons, entre autres. Tout cela est en train de pourrir ici, faute de bac pour traverser avec nos marchandises. Nous demandons à l'État de nous doter d'un nouveau bac.
Selon cet acteur de la société civile locale, l'absence de réhabilitation de la route nationale numéro 12 jusqu'à Luozi fait du fleuve l'unique voie de désenclavement du territoire. Depuis Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Merci de nous suivre dans la ville de Kindu où il est 19h passé des 6 minutes. Les habitants de cette ville peinent à accéder à l'eau potable et dans divers quartiers. Au Bornefontaine, des longues files d'attente sont observées depuis plusieurs jours. Selon certains habitants, cette situation est liée à la baisse du niveau des sources d'approvisionnement en cette période des saisons sèches. Les ménages sont ainsi contraints de parcourir des longues distances pour s'en procurer lorsqu'ils en ont la possibilité. Florence Kizalunga.
Ils sont nombreux, jeunes et adultes, à sillonner la ville avec des bidons à la recherche d'eau potable.
Ça devient compliqué. On est obligé de circuler dans plusieurs bornes fontaines pour avoir de l'eau. On ne comprend pas si c'est quoi, mais ça devient difficile, très compliqué pour avoir de l'eau.
Même constant chez cette jeune fille rencontrée dans une file d'attente. Elle affirme avoir passé plusieurs heures pour obtenir un seul bidon d'eau.
On ne comprend pas si c'est quel phénomène. Avoir un bidon d'eau, ça devient compliqué. Depuis le matin jusqu'à 12h, j'ai eu seulement un bidon. C'est grave.
Face à cette pénurie, certains ménages se tournent vers des puits non aménagés ou d'autres sources d'eau potable dont la qualité n'est pas toujours garantie. Une pratique qui, selon nos observateurs, pourrait accroître le risque des maladies d'origine hydrique. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Je l'ai dit au sommaire, le gouvernement congolais anticipe une éventuelle propagation de la maladie à virus Ebola dans les écoles situées dans les zones à haut risque. Un programme d'enseignement à distance sera lancé dans 18 zones de santé dès la rentrée scolaire 2026-2027. L'annonce a été faite par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre de la Santé, Roger Kamba, et celui de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Raissa Malou précise que dans les zones concernées, les contenus pédagogiques seront préparés et mis à la disposition des élèves toutes les 4 semaines. Ces contenus seront notamment imprimés, distribués et diffusés par les radios locales et communautaires. D'autres détails avec Alain Hirung.
L'objectif, selon la ministre de l'Éducation nationale, est de permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage et de maintenir leurs acquis même lorsque les conditions sanitaires ne permettent pas un fonctionnement normal des écoles. Les ministères de l'Éducation nationale et de la Santé travaillent conjointement à la mise en œuvre de ces mesures. Les autorités veulent notamment éviter qu'une zone classée orange ne passe au rouge ou qu'une zone verte ne devienne orange, a insisté Raissa Malou. La sensibilisation des enseignants, des responsables d'établissements et des communautés fait également partie du dispositif. La ministre a notamment insisté sur la nécessité pour une personne malade de ne pas se rendre à l'école. Dans les zones à risque, les rassemblements importants seront également limités en coordination avec les services sanitaires. Selon Raissa Malou, à travers l'enseignement à distance et ses mesures de prévention, le gouvernement entend maintenir l'accès à l'éducation tout en réduisant les risques de transmission du virus Ebola pendant la rentrée scolaire 2026-2027.
La mission des travailleurs humanitaires reste préoccupante en RDC. Le constat est dressé par les coordinateurs humanitaires des Nations Unies en RDC, Damien Mama. Il a exprimé à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'aide humanitaire observée chaque 19 août. Saluant le travail abattu par ces acteurs en faveur de personnes dans le besoin, ce responsable onusien a appelé à la protection des civils et à la cessation des attaques contre les travailleurs humanitaires. Damien Mama est dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Dans l'est de la RDC, les violences continuent d'alimenter l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. L'utilisation croissante de drones expose davantage les civils et les travailleurs humanitaires et complique l'acheminement de l'aide. Entre janvier et juin 2026, 243 incidents ont affecté le personnel humanitaire en RDC, coûtant la vie à 6 travailleurs humanitaires. Aujourd'hui, nous honorons leur mémoire. À cette situation s'ajoute aujourd'hui la résurgence de la maladie à virus Ebola qui aggrave encore la vulnérabilité de millions de personnes. Les besoins humanitaires ne cessent d'augmenter alors que les ressources, elles, restent largement insuffisantes. Le plan de réponse humanitaire est financé à 47%. Je remercie les partenaires qui nous soutiennent et invite les autres à se mobiliser davantage. Le droit international humanitaire doit être respecté. Les civils doivent être protégés. L'accès humanitaire doit être garanti de manière sûre et sans entrave. Les attaques contre les travailleurs humanitaires doivent cesser.
Au Nord Kivu, les armes ne se sont pas tuées ce mercredi dans le groupement Oufamandu 1er dans les territoires des Masisi. Les combats opposant les Wazalendo aux rebelles du M23 se poursuivent depuis 3 jours. Des sources sur place rapportent les déplacements des habitants d'une dizaine de villages vers Oufamandu D et les territoires voisins de Walikale. Jocelyne Moussa Oupondé.
Depuis tôt le matin ce mercredi, les éléments de l'AFC M23 ont lancé des attaques simultanées sur au moins 4 positions des combattants Wazalendo dans le groupement d'Oufamandu 1er, chefferie de Bahoundé, indique des sources locales. Selon ces sources, les affrontements se déroulent notamment dans les villages de Maïga, Kiinga, Musimbira et Mwamba et se rapprochent progressivement de l'agglomération de Remeka. Cette situation provoque un déplacement massif des populations. D'après un notable local, les habitants d'une dizaine de villages ont quitté leur localité pour retrouver refuge à Oufamandu 2 dans les secteurs de Katoy ou encore à Biriko dans le groupement de Waloa Luanda, territoire de Walikale. Depuis plus d'une semaine, cette région est le théâtre d'affrontements entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23. Débuté dans les territoires de Kale et au sud Kivu, les combats se sont étendus au groupement d'Oufamandu 1er dans le territoire de Masisi.
Nous allons quitter Masisi, nous prenons la direction de la province d'Ikwilu où la nouvelle société civile tape du poing sur la table face aux prélèvements réguliers opérés sur les salaires des enseignants et agents de l'État dans la région. Cette situation est amputée à une banque commerciale opérant localement. Le président de ces structures citoyennes exige des explications sur la raison de ces prélèvements. Le point c'est avec Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
Cette organisation de la société civile s'est dit préoccupée par cette situation qui, selon elle, plonge de nombreux agents publics dans l'inquiétude. Elle demande des explications sur l'origine de ces retenues et appelle les autorités compétentes à intervenir afin de préserver le revenu des fonctionnaires. Pour Brunel Ndombe, président provincial de la société civile d'Ikwilu, les agents concernés se retrouvent dans une situation difficile et ne savent plus à quel interlocuteur s'adresser pour obtenir des réponses.
Vous savez que la tension monte autour des prélèvements sur les salaires des enseignants, agents et fonctionnaires de l'État dans la province d'Ikwilu. Et nous, la nouvelle société civile congolaise Ikwilu, exigeons des explications immédiates sur l'origine de ces retenues, leur fondement juridique et leur destination, parce qu'elles constituent bien sûr une violation des droits des troisième génération.
La nouvelle société civile d'Ikwilu appelle ainsi les autorités provinciales et nationales ainsi que les responsables de la banque concernée à examiner rapidement cette situation et à apporter des éclaircissements aux agents concernés.
Actualité internationale.
Plus de 100 personnes sont mortes lors de l'effondrement d'une mine d'or artisanale en République centrafricaine, a déclaré un responsable d'une association minière locale ce mercredi. L'effondrement de la mine a eu lieu mardi dans le village des Amboyé, près de la frontière avec le Cameroun. Un procureur de la ville de Boar, dans l'ouest de la République centrafricaine, a déclaré dans un communiqué qu'il y avait eu de nombreux morts et blessés et que plusieurs personnes étaient encore portées disparues. Il n'a pas donné des chiffres exacts.
L'invité.
Vous l'avez compris, nous parlons invité et aujourd'hui nous recevons Jackson Tshisekedi qui est coordonnateur du Festival Congo Photo International, une plateforme dédiée à la promotion des talents et de la créativité des jeunes photographes. Il s'exprime sur la première édition du Festival Congo Photo International organisé du 22 au 29 août à Kinshasa. Cet événement réunira des photographes congolais et étrangers autour du thème « Mémoire en lumière, de l'ombre coloniale à la vision contemporaine ». Quelle est la portée d'un tel événement autour de la photographie en RDC, Jackson Tshisekedi est interrogé par Jody Daniel Nkachama.
Monsieur Jackson Tshisekedi, bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel.
Festival Congo Photo International, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser un tel événement?
Le Festival Congo Photo International, c'est un festival dédié à la photographie. Après avoir observé la scène photographique congolaise, on comprend qu'il y a beaucoup de vides et de couacs. Et il manquait aussi des plateformes ou des événements où les photographes pouvaient s'épanouir ou se développer. Voilà pourquoi nous avons voulu mettre en place cette structure qui va permettre à ce que l'on puisse structurer ce secteur de la photographie, mais aussi faire la promotion de notre photographie et des photographes congolais. Voilà pourquoi on a nommé ça Festival Congo Photo International, parce que ça appartient au Congo.
Est-ce qu'il y aura d'autres photographes qui viendront des autres pays?
Oui.
Pour célébrer cet événement avec...
Nous avons 15 photographes internationaux qui vont participer à cette exposition. Nous avons les photographes de la Belgique, la France, l'Italie, le Brésil, Togo, Sénégal, Mali, jusqu'à Ouzbékistan. Ils sont là. Les Japonais sont là aussi.
Et ça va se passer du 22 au 29 août ici à Kinshasa, où précisément?
Oui, l'événement se passe du 22 au 29 août à Kinshasa, à l'espace Lossa, Maison des Arts, qui se trouve à Lupen, sur l'avenue Suisse numéro 19. Mmh. C'est vraiment un nouveau centre, un très beau cadre pour pouvoir diffuser et pratiquer de l'art dans ces coins de la ville.
Quelles sont les activités qui seront organisées pendant cette semaine de la photographie?
Le 19 août, c'est la journée internationale de la photographie. À l'occasion de cet événement, nous allons faire un point de presse pour présenter le festival, mais aussi annoncer les dates qui restent, car nous commençons déjà, le vernissage est prévu ce 22, c'est samedi 22 août, et jusqu'au 29, et à partir de la semaine de 24, du 24 au 27 août, il y aura des formations des photographes. Ce sont des formations de renforcement des capacités. Comme nous venons de le dire au départ, on avait senti un vide, et car il n'y a pas assez de professionnels dans ce domaine. S'il y a des professionnels, ils ne sont pas vraiment nombreux. Alors qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'exercent dans ce métier de la photographie. Et presque tout le monde aujourd'hui est photographe, surtout avec nos smartphones.
Oui, avec les smartphones aujourd'hui.
Oui. Mais alors cela ne fait pas de tous des professionnels, des photographes professionnels. Pour être professionnel, il faut connaître quelques règles, quelques principes. C'est alors que nous avons mis en place ces ateliers de 4 jours. Sur différents thèmes qui va aider ces photographes qui ont déjà même un niveau de pouvoir ajouter ou renforcer leurs capacités. Et ces formations vont se passer au Centre culturel Le Zoo grâce à notre partenaire Fosca. Le vendredi 28, ça sera une journée de formation ouverte au public, parce que les 4 jours précédents vont être dédiés seulement aux photographes pour apprendre la photographie professionnelle.
D'accord.
Et le 5e jour, qui sera le 28, il sera dédié à tout le monde, scientifiques, toute personne
intéressée. Tous ceux qui aiment la photographie, disons.
Oui, oui. Alors, ce jour-là, nous allons parler des droits d'auteur qui fait aujourd'hui débat dans ce domaine de l'image. Nous allons aussi parler de l'entrepreneuriat culturel, mais aussi d'autres sujets connexes du domaine de la photographie, qui sera aussi animé par beaucoup de membres du FOSCA.
D'accord. Alors, à part ces formations, qu'est-ce qui est prévu encore? Il y aura seulement la formation? Est-ce qu'il y aura des expositions, des œuvres, etc.?
Si, alors, comme on dit, festival, c'est la fête de la photographie. Donc, nous célébrons la photo. Et l'événement majeur, c'est l'exposition des photographies de nos 20 artistes qui vont exposer leurs différentes œuvres. Et j'invite déjà le public à ne pas hésiter de passer pour voir cette belle exposition de photographie.
Bien, M. Jackson Tshisekedi, coordonnateur du Festival Congo Photo International, première édition. Merci.
Merci.
Et à la prochaine.
Vous l'avez remarqué, mesdames et demoiselles et messieurs, c'est 19 août. Le monde célèbre la journée de la photographie. Bonne fête à tous les photographes. Merci d'avoir suivi cette édition du journal. C'était Justin Sial à la partie technique, René Lintibonner à la présentation, Lévin Mbouinga à la coordination, appuyé par Alain Hiro Mouchinge.